propre à chacune des
Oui.
familles, en fait. Déjà des mères, de leur ressenti physique. Moi, mon mari m'a
Tout à
toujours
fait.
suivie et ça a toujours vraiment été quand moi j'ai ressenti que j'étais prête, qu'on a même commencé à en parler, quoi. Enfin,
Oui, c'est ça,
c'était
c'est
avant
qu'en
d'être une
plus.
décision de famille, il y a déjà
Ouais.
la maman qui va porter la grossesse.
C'est
Et je pense
ça.
que c'est important de s'écouter, de
Tout à
s'écouter,
fait.
d'écouter son corps. Et moi, je savais qu'à chaque fois, j'étais prête. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça s'est bien passé.
Ça
Je
s'est
pense que
bien
ça
passé.
conduit.
Et, mais très honnêtement, oui, moi, j'ai découvert mes enfants. Bah, surtout mon, enfin, notre garçon, que je voyais. Bah, enfin, on communiquait, hein. On communiquait, mais je le voyais toujours comme quelqu'un de très, très, très sérieux, en fait.
Bah, faut
C'était.
quand même avouer
Non,
qu'il est aussi.
il est sérieux. Non, mais il est sérieux, mais je voyais pas ce côté. Il avait pas ce
Rigolo.
côté, je voyais pas ce côté rigolo qu'il avait, en fait,
Ouais.
quoi.
Mais à ce moment-là, nous, la femme, on est comme. En fait, on se retrouve déjà, on est pas.
Ouais, t'es pas à ton avantage,
T'es pas à
on
ton
peut se le dire,
avantage, t'es
oui.
pas en pleine possession de tes moyens, entre
Non,
guillemets, t'es
c'est
en train de donner
clair.
la vie, donc c'est un peu un truc de fou, en
Bah
fait.
oui.
Et puis, t'es pris dans un truc, enfin, des fois, tu peux même pas le faire, enfin, tu peux ne pas faire attention à ce qui se passe autour de toi.
Exactement, parce que t'es focus sur
Voilà,
ce que tu vis. Oui,
exactement.
bien
Donc,
sûr.
il faut que, en amont, t'es donné un peu tes guidelines. Et moi,
Ouais.
c'est vraiment ce que j'ai fait. Je
Ouais.
sais qu'à un moment, je me suis laissée prendre dans
Ouais,
les événements et
dans ce que
tout.
tu vivais,
Mais
ouais.
comme ma sage-femme avait bien lu mon projet de naissance, à chaque fois, elle redirigeait le truc
Ah, c'est
dans.
super. Bienvenue sur le podcast Moana. Le podcast qui vous parle de parentalité. Avec mes invités, nous abordons différents sujets comme la grossesse, l'éducation, l'accouchement. Ici, vous aurez l'occasion de trouver des séries d'épisodes sur un sujet donné et parfois des épisodes hors série sur des sujets plus personnels où vous n'entendrez que ma voix. Moana, c'est la réunion de deux mots, moine qui signifie enfant et na qui signifie maman. Ces deux mots sont un petit clin d'œil à mes racines camerounaises. Moi, je suis Terry, heureuse maman de trois enfants qui ont 11 ans, 7 ans et tout juste un an. J'élève cette joyeuse fratrie avec mon mari Simao. Bonne écoute! Cet épisode fait partie d'une série où, avec mes invités, nous avons parlé de la grossesse et de la manière dont ils l'ont vécue. Dans le premier épisode de cette série, j'ai reçu Sabrina, qui nous a parlé de ses deux grossesses qu'elle a vécues par volonté de la façon la plus naturelle possible. C'est l'épisode 16 du podcast que je vous invite à écouter. Aujourd'hui, je reçois Olivier. Nous avons enregistré cet épisode dans l'espace de coworking Station F et il est très probable qu'il y ait quelques bruits tout autour. Néanmoins, son histoire est si touchante que je pense que par sa voix, vous serez captivés. Il est vrai aujourd'hui que les réseaux sociaux ont une place très importante dans nos vies. Certains en ont même fait un métier comme créateur de contenu ou encore influenceur. Et souvent, à force de suivre leur quotidien, on aurait presque l'impression de faire partie de la famille, au point d'être très très intrusif par moments. La fameuse question « À quand le bébé ?» Cette question qui semble anodine pour certains, mais qui pourtant peut faire tellement de mal à la personne qui la reçoit. Merci une fois de plus à Olivier et à Karel d'avoir accepté de partager ce bout de votre histoire avec moi. Bonne écoute.
Bonjour Olivier.
Bonjour Terry.
Merci d'avoir accepté mon invitation,
Mais avec
déjà.
plaisir.
Je suis vraiment très contente de te recevoir aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Ça n'a pas été simple, hein? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Pas que ça n'a pas été simple, mais c'est vrai qu'on a reporté plusieurs
Ouais,
fois.
c'est les aléas des vacances, des jours
Ouais,
fériés.
non mais écoute, c'est top que tu aies accepté, malgré justement ces aléas des
Ouais.
vacances. Parce que bon, les vacances, il faut quand même se reposer. Et malgré tout, tu es là, ça me fait hyper plaisir.
Ben, merci beaucoup, moi aussi ça me
Et
fait
en
plaisir.
plus, on a peut-être une petite surprise tout à
Peut-être,
l'heure,
hein,
mais voilà, on
peut-être.
n'en dit pas plus. Est-ce que tu peux te présenter, voilà, nous dire qui tu es et puis ce que tu fais dans la vie?
Alors, je me présente, je suis Olivier Vullière, je suis franco-sénégalais, je vis à Dakar avec mon épouse, Karel Vignon-Vullière. Nous sommes des entrepreneurs, nous avons une petite entreprise qui s'appelle les Gourmandises de Karel, qui part d'un site internet de recettes. Et aujourd'hui, je vais dire qu'on est plus un peu des créateurs de contenu. Et moi, je m'occupe de la partie stratégie et un peu plus et développement, et Karel s'occupe du contenu et de toutes les photos et toutes les recettes. Et moi, je mange. Je suis aussi goûteur professionnel. C'est ça sur mon CV, c'est très important. J'ai un palais fin et affiné. Et je suis le papa de Baby Kay et Kélina. C'est ça.
Ok, bah oui, justement, moi c'est. Alors moi je ne vous ai pas connu du fameux blog. Moi je vous ai connu en fait suite à une photo que Karel avait postée il y a.
C'était il y a un an.
Ouais, et donc en fait c'est, c'était le post pour annoncer donc, la grossesse. et en fait, pourquoi je vous ai connu comme ça? Parce que ce post-là, enfin cette photo, avait été énormément partagée, énormément. Et en fait, c'était pas tant, parce que l'arrivée d'un enfant, c'est toujours quelque chose de très très beau. Hein, c'est, voilà. Moi, c'était pas ça qui m'avait tant interpellée. C'était plus déjà le fait que ce soit hyper repartagé comme ça. Et puis le message qu'il y avait derrière. Ouais. Donc effectivement, je me suis dit que. Il y avait un truc. Voilà. Et en cherchant, bah, je suis
qui sont ces gens?
Ouais, non, mais en cherchant, moi, je suis tombée sur le compte de Karel. Donc, j'ai vu effectivement plein de belles choses niveau nourriture. Et voilà, c'était très, très attrayant. Ça je dois l'avouer. Mais j'ai voulu en savoir un peu plus concernant, du coup, cette grossesse et pourquoi c'était autant partagé. C'est vrai que c'était quand même assez explicite par rapport au message des gens. Mais voilà, et je suis tombée sur un de ses posts justement où elle parlait du fait qu'elle recevait souvent des questions autour de la grossesse, de savoir quand est-ce qu'elle allait avoir un enfant, etc. Et justement, voilà, c'est comme ça que ça m'a interpellée. Je me suis dit, waouh, en fait, même au-delà, parce que dans la vie de tous les jours, on peut dire qu'on ressent souvent ce genre de questions en tant que femme.
Ouais.
Et en plus, si on est mariée depuis un certain temps et... Déjà, je trouve ça pas normal.
Ah non, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est quelque chose qui est...
Mais sur les réseaux sociaux, c'est encore
Plus c'est décuplé, ça. C'est ça, le fait qu'on ait choisi de mettre notre vie en avant. Et en fait, non, on n'a pas choisi de mettre notre vie en avant. Nous, à la base, on a choisi de mettre de la cuisine en avant. Mais je pense que Karel est une personne... tu peux t'attacher rapidement à sa personnalité et autres. Ce qui fait que les gens, avec les stories et tout, comme à force de la voir tous les jours... Ils oublient qu'ils la connaissent pas.
C'est ça.
Tu vois,
c'est
et donc les gens souvent se sont permis de poser des questions alors que tu la connais pas, sans savoir par quoi elle est passée et
c'est
tout. Et il y a eu un jour, ça a été la question de trop, marre. Et je me souviens exactement, c'était Karel avait posté un truc comme quoi on allait faire la sieste parce qu'on était fatigué ou un truc comme ça. Et il y a quelqu'un qui lui a crié, oh laissez la sieste, faites-nous les enfants. Tu vois.
Wow.
Sauf que voilà, c'était la phrase de trop. Et après, je te dirais que ce poste, moi, je voulais qu'elle le fasse depuis plus longtemps que ça, avant. Je pense qu'elle, elle avait besoin de digérer certaines choses avant de pouvoir le faire et de se dire qu'elle avait la paix de son esprit et de son cœur avant de pouvoir le faire. Parce que moi, je voulais qu'elle le fasse parce que, tu sais, les gens, ils voient Karel souriante, joviale, tout. Ils la connaissent pas comme moi. Et Karel, tu vois, elle est forte, mais des fois, à vouloir être trop forte, j'ai peur que, tu vois, souvent, elle garde des choses en elle, d'elle et tout. Et à un moment, tu vois, il faut que ça sorte, quoi.
Ouais.
Et moi, je voulais qu'elle le sorte. Et justement, et comme ça, ça, c'était plus pour elle-même, tu vois, que je voulais qu'elle le fasse. Et quand elle l'a fait, j'étais content. Et quand elle l'a fait, on ne s'attendait pas à avoir autant de retours aussi. Et ce poste est vraiment, je vais dire, dans notre histoire et à un moment clé de notre histoire en tant que créateur de contenu. Et je pense que c'est un poste qu'elle a fait il y a 2 ans ou 2 ans et demi, même peut-être 3 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, on reçoit des messages par rapport à ce poste. Donc, c'est pour te dire que ce poste est quand même toujours d'actualité aujourd'hui. Et malheureusement, je pense qu'encore dans quelques années, il sera toujours d'actualité.
Ouais, c'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire que moi, alors effectivement, on le voit là sur les réseaux sociaux. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est même quelque chose qu'on vit au quotidien, dans la vie en général. Et même quand c'est pas par un tas d'inconnus, ça peut être par la famille tout ça. Et c'est vraiment un sujet... important, parce que c'est vrai que beaucoup de gens peuvent passer par des situations très compliquées.
Ah oui.
C'est difficile d'en parler et de recevoir ce genre de questions. Déjà, c'est intrusif.
Totalement. Totalement.
C'est intrusif. Arrêtez ça.
Arrêtez ça.
De un et de deux, on ne sait pas par quoi passent les gens. C'est quelque chose qu'on peut se prendre en plein, de plein fouet comme ça, et on ne sait pas comment va réagir la personne. Donc voilà, il faut stopper ça. Et j'ai trouvé son post vraiment très bien, effectivement, qui parle à beaucoup.
Ouais.
Moi qui m'a parlé, alors je ne suis pas forcément passée par là, mais j'ai des personnes dans mon entourage. Enfin, je peux passer par là, si, parce que même en ayant des enfants, à un moment donné, moi j'ai des enfants qui ont un écart assez conséquent.
D'accord.
Et quand, avant d'avoir ma troisième et dernière, j'avais la famille surtout qui nous demandait bon ça y est les deux grands sont grands
la note elle a un an, on commence déjà à nous dire c'est quand le deuxième, Karel la première qui me demande à moi c'est quand le deuxième, tu vois. Moi j'ai dit calme toi mais c'est vrai que de toute façon malheureusement tu sais, même c'est hors de la question du bébé, je trouve les gens sont intrusifs dans tout. Quand t'es pas marié, c'est pour quand le mariage? Non, avant d'être marié, t'as une copine, c'est quand t'as la copine. Après, quand t'as une copine, c'est quand le mariage. Quand t'as le mariage, c'est quand l'enfant. Quand t'en as un, c'est quand le deuxième.
Cette pression-là, tout le temps.
Pourquoi vous voulez vous occuper de la vie? Et même au niveau des parents. Moi, mes propres parents, j'ai dit arrêtez. Nous, on fait laissez-nous vivre notre vie, notre parcours, notre histoire. Mais après, on vit dans un monde où, tu sais, même moi, je me dis... avant d'être confronté à ces problèmes de grossesse, j'ai jamais pris conscience de ça. Parce que quand tu es à l'école et que tu fais les cours de biologie et tout, on te dit, avoir un enfant, c'est ça, ça, et tu as un enfant. 1 plus 1 égale 2.
Et pourtant, non.
Alors que, en fait, après, quand nous, ça nous est arrivé, discuter avec des médecins, tu te rends compte qu'il y a plus de grossesses qui sont difficiles que de grossesses qui... Voilà, c'est bon, c'est fini, quoi.
Ah oui, non, mais je suis complètement d'accord avec toi.
Et je pense que c'est dès l'école, on a un manque d'informations. Et nous, quand on a eu notre première grossesse qui s'est mal passée, mais le nombre de tantes dans ma famille, dans la famille de Karel, de gens de notre entourage proche qu'on voit tous les jours, qui nous ont avoué être passés par des épreuves comme ça. Et tu te rends compte que tu as 15, 20, 30 femmes que tu connais autour de toi qui ont vécu ça et que tu n'es pas au courant. Parce que si tu la savais, par exemple, si tu savais que dans ton cercle proche, déjà, ne serait-ce que plein de gens ont vécu ça, tu es un peu plus préparé.
C'est ça. Tu as plus cette facilité-là à aller demander un peu comment ça se passe, même à te confier
bien sûr.
Parce que c'est sûr que quand on passe par là, ce n'est pas forcément évident d'en parler, parce qu'on n'est pas sûr d'être compris. Et même, on a peut-être besoin aussi d'en savoir un peu plus, d'avoir un peu un retour d'expérience.
Ou même d'être armé psychologiquement à te dire que, Sois pas trop heureux parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer, d'être plus sur tes gardes. Parce que tu vois, par exemple, Karel, sur la première grossesse, elle a eu des petits signes de son corps, mais elle s'est dit, elle s'est pas dit, il y a quelque chose de dangereux. Tu vois? Parce que quand elle a écrit au gynéco pour dire, j'ai ça, il a dit, non, t'inquiète, non, c'est rien, mais passe juste, tu vois, vérifier.
Okay.
Tandis que si on avait su que avoir une grossesse,
Il peut y avoir des petites complications.
On serait peut-être allé tout de suite, tu vois. Elle est partie au boulot. Et après son boulot, elle est passée voir le gynéco. Tu vois. Mais parce qu'elle ne le savait pas. Et je pense que si on avait été plus armé mentalement, peut-être même qu'on aurait pu sauver cette première grossesse. Tu vois.
Justement, vu que tu en as déjà, vu que tu en as parlé, on a un peu introduit là-dessus. Est-ce que tu peux justement un peu nous parler de... Alors déjà, pourquoi est-ce que j'ai voulu te recevoir, toi? Parce que c'est quand même important de le dire. Moi, c'est vrai que quand j'ai créé ce podcast, j'avais à cœur vraiment d'entendre la voix des papas. Alors, je dis des papas parce que je n'ai pas parlé qu'avec des papas. J'ai aussi parlé avec d'autres hommes qui sont passés par là, qui ont failli devenir papa, puis finalement ne sont pas devenus par la force des choses, mais ça reste la voix des hommes qui ont vécu certaines choses, et voilà. Et toi, je sais que Karel, enfin, je sais que c'est pas Karel en tant que tel, c'est la femme vit la chose physiquement et voilà, dans sa totalité. Mais je trouve qu'on ne parle pas assez, en fait, de comment le vivent les hommes. C'est-à-dire, les hommes qui nous accompagnent, là, je vais dire nous, parce que je me sens aussi un petit peu concernée, les hommes qui nous accompagnent, voilà, nos maris, nos compagnons, voilà, nos copains, comment ils le vivent, à leur niveau. Et c'était moi, c'était pour ça aussi que je voulais te recevoir aujourd'hui, pour que tu nous en parles, parce que vous êtes passé quand même par pas mal de
choses. Pas mal d'épreuves, exact. Pas mal de rebondissements.
Vous en avez quand même vachement parlé sur les réseaux sociaux. Moi j'ai pu suivre votre vidéo sur YouTube où vous en avez parlé. D'ailleurs, vidéo qui m'a émue à un point. Enfin voilà, j'ai aussi suivi votre live, vous en parlez tout. Et je voulais que toi, tu nous en parles aujourd'hui un petit peu. Comment est-ce que tu as vécu tout ça?
Ouais.
Tu nous racontes un peu aussi comment ça a commencé. Mmh. Tu avais déjà un peu commencé tout à l'heure. Et voilà, vas-y.
Bah nous, comment ça se passe? C'est que, parcours, tu vois, on vient au Sénégal, on avait déjà vécu ensemble 2 ans, on arrive, on voit que finalement ça se passe plutôt bien parce que notre aventure au Sénégal c'est un coup de tête.
Ouais.
Donc on arrive un peu comme ça, cheveux sur la soupe sans rien savoir ce qui va nous attendre, on voit que ça se passe bien au Sénégal, donc on se marie, voilà, cheminement des choses, on se dit bon ben voilà, on est là, essayons d'avoir un enfant maintenant.
Ouais.
Donc ça se passe très vite car elle tombe enceinte et donc on est dans la joie. Tu sais, on fait premier trimestre, quatrième trimestre, cinquième trimestre, tout va bien. Et un jour, je suis au bureau et Karel me dit, je suis à l'hôpital, la petite est en train de descendre, je ne sais pas ce qui se passe, viens vite.
Mmh.
Voilà, c'est comme ça que ça arrive, tu t'attends pas. Et donc, je fonce à l'hôpital. Là, les médecins, ils ont essayé de... Parce qu'en fait, Karel, le problème qu'elle a, c'est qu'elle a son col qui s'ouvre trop tôt.
D'accord.
En fait, elle a une béance de col, exactement.
Okay.
Et donc, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de la mettre surélevée en essayant de voir si le fœtus pourrait redescendre
ou
remonter, dans le sens ça. Et non, elle a commencé à avoir des contractions et le corps a rejeté le fœtus. Et
ça, c'était à combien de mois de grossesse, là, à ce
moment-là? On était à 6 mois.
Ouais. Wow,
ouais.
Déjà.
Ouais. Et en fait, c'est tellement soudain. Je vais dire que sur le coup, j'étais dans le truc de voir ma femme qui souffrait. Tu es dans cette ambiance où finalement tu as plein de gens qui s'agitent autour de toi, t'es dans la salle d'hôpital, bon, moi mes parents n'étaient pas là, les parents de Karel ne sont pas là, donc j'ai ma tante quand même qui est venue, un tonton qui est venu, j'ai 2 amis qui sont venus me soutenir, et ça va tellement vite. Et en fait, j'étais présent dans la salle quand Karel a donné vie à Mia, notre fille Mia, et ça va à une vitesse incroyable, tu sais pas ce qui se passe, tout. Donc, ils ont mis Mia en couveuse.
D'accord.
Sauf que la clinique où on était, ils n'avaient pas ce qu'il fallait pour des grands prématurés, pour des prématurés. Autre problème, l'hôpital principal, qui est juste à côté de la clinique où on était, toutes les couveuses étaient pleines.
Wow.
Ouais, toutes les couveuses étaient pleines. Et bon, tout de suite, les médecins nous ont dit, bon, il y a très peu de chances que la petite tienne. Et bon, nous, on pensait qu'elle allait même pas passer la soirée et tout. Sauf que le lendemain matin, elle s'est battue, elle était encore là et tout. Et par le biais d'une amie qui a appelé une amie à elle, dont le père, je crois, est colonel ou un truc comme ça, un grade assez haut dans l'armée au Sénégal, on a pu avoir une couveuse. Ils sont venus la chercher donc Mia, ils l'ont amenée à l'hôpital principal. Donc moi j'avais Karel qui était donc à la clinique et je faisais des allers-retours hôpital principal, clinique. Et donc j'ai passé la nuit avec Karel. Le lendemain matin, je suis allé à la clinique le plus tôt possible pour l'heure des visites et tout. Et quand le docteur est arrivé, parce que j'avais des infirmiers qui étaient là, mais j'avais pas d'informations, j'avais rien. Et le docteur est arrivé, elle m'a dit, bon, je suis désolé, la petite, elle n'a pas tenu.
Oh là là.
Donc, elle me dit ça, donc je suis tout seul. Elle me dit ça.
Tu n'es même pas avec Karel.
Non, je suis tout seul, j'ai personne qui est avec moi. Donc, les émotions qui montent, tout. Et les émotions de me dire que là, il faut que je rentre et que j'aille voir Karel et que j'aille lui dire.
Ça
c'était quelque chose aussi... Voilà, donc bref, je suis arrivé dans la chambre d'hôpital. Karel, elle m'a dit comment elle va. Elle a vu mon visage, elle a compris.
Ouais,
j'ai pas eu besoin de parler. Donc après, il faut gérer les émotions de ta femme qui doit, elle, digérer ce que tu viens de lui dire. Et après, parce que je voulais que ma fille soit enterrée, qu'elle ait un enterrement musulman.
D'accord.
Quand même, je tenais à ce qu'elle ait ça.
D'accord.
Donc, je me suis occupé de tout ça.
Car elle était toujours.
Car elle était à la clinique.
Elle était
à la clinique, elle pouvait pas sortir et tout. Et je vais dire ce qui a été le moment le plus dur pour moi. Mmh. Justement, ça a été quand ils ont lavé la petite et qu'ils l'ont mis donc dans son linceul blanc.
Ouais.
J'ai pu la voir. J'ai pu la voir, elle était toute belle et elle était magnifique et je me suis effondré.
Ouais,
et
ça va être terrible.
Ouais, c'est terrible parce que t'es jamais prêt à ça.
Non.
Deux, on savait pas que ça allait arriver et t'as tellement imaginé, ah j'ai hâte qu'elle soit là, j'ai hâte de la voir, tu vois. Dieu fait bien les choses parce que on n'avait pas encore commencé, tu vois, à acheter des choses
acheter
ou à préparer la chambre, un truc comme ça, donc.
Mm.
Donc, ouais, on a fait l'enterrement et on n'est pas rentré tout de suite à la maison, tous les deux.
Okay.
On est resté un jour ou deux jours chez ma tante.
Mmh.
Et après, on est rentré tous les deux. On rentre, donc bon, c'est pas facile, mais je pense que Karel et moi, on se parle beaucoup.
Ouais.
Tu vois, on se parle beaucoup et tout. Donc, puis voilà, on savait qu'au moins, tu sais, on n'avait pas de problème de procréation. Parce
oui.
que moi, je pense à ces familles qui, tu vois, eux, ils peuvent même pas avoir ne serait-ce que l'espoir d'avoir un bébé.
C'est ça.
Tu vois, nous, on savait qu'on pouvait.
Mmh.
Donc, je pense qu'il y avait cette part d'espoir en nous.
Vous êtes accroché à ça, là,
ouais.
ce petit truc que vous aviez finalement.
C'est ça.
Pour essayer d'aller
il dans... il a fallu tout de suite voir le gynécologue pour savoir, OK, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ouais.
Tu vois, lui nous a dit tout de suite... Ok, bah le problème que Karel a, c'est ça, c'est une béance de col, nanani.
C'est bien parce qu'il a pu le savoir quand même assez
oui.
tôt finalement.
Il a pu le savoir assez tôt, en tout cas il a compris assez tôt c'était quoi le problème.
Okay.
Et donc, quelques mois après, je crois 6 mois après, Karel retombe enceinte.
Ouais.
Retombe enceinte et nos mères qui sont ici nous disent, écoutez, vous savez quoi, là Karel est enceinte, non, là on ne prend pas de risque, il faut qu'elle vienne en France pour la grossesse.
Mmh.
Nous aussi, on se dit, on n'a pas envie de vivre la même aventure. Parce que c'est sûr que là, de toute façon, tu sais que tu as déjà eu un problème. Donc, tu pars dans la deuxième avec une inquiétude.
Ouais,
tu vois, tu as une inquiétude dans la deuxième. Donc, on prend tout de suite la décision que Karel, elle va partir en France.
Okay.
Donc, Karel vient chez sa mère à Paris. Moi, je suis à Dakar. Et quand elle arrive ici, en fait, elle va à l'hôpital. Elle explique son problème. Elle ramène toutes ses analyses. Et elle dit, voilà, moi je veux un cerclage, tout, voilà. Et on lui dit, non madame, c'est pas comme ça. Et on lui dit, déjà au vu de vos résultats, on sait même pas vraiment c'est quoi le problème que vous avez. Donc on sait pas si c'est juste parce que c'était des résultats qui venaient du Sénégal, ils ont pas voulu les considérer. Ou c'est juste qu'effectivement peut-être il manquait des informations. Ça, on saura jamais. Donc je veux pas dire l'un ou l'autre. Et en gros, ils lui disent, écoutez, nous en France, la politique c'est que tant que vous avez pas perdu 3 grossesses, on peut pas vous faire un cerclage automatiquement.
C'est pas vrai.
C'est ce qu'ils lui ont dit. C'est ce qu'ils lui ont dit.
C'est incroyable.
Et donc, ce qu'ils lui disent, c'est qu'il va falloir que vous veniez chaque 2 semaines
ouais.
faire une visite de contrôle et on va surveiller votre grossesse.
D'accord.
Aujourd'hui, avec le recul, Karel et moi, quand on en discute, on se dit qu'on aurait dû prendre un deuxième avis.
Ouais.
Pas s'arrêter à cet hôpital-là et peut-être prendre un deuxième avis parce que peut-être qu'un autre médecin, vu des résultats qu'on avait ramenés, aurait peut-être choisi tout de suite de faire le cerclage.
Mmh.
Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie de l'expérience de la vie. Il faut quand même un deuxième, peut-être voir un troisième avis pour voir.
Oui, c'est important justement que tu dises ça, parce que en général, c'est souvent ce qu'on dit. C'est bien d'avoir le premier avis du premier médecin ou du premier hôpital, mais n'hésitez pas à aller
ouais,
voir.
Ouais. Et donc, Karel fait 4 mois. Elle fait 4 mois ici. Et moi, je suis donc à Dakar pour le boulot.
Ouais.
Et je pars en mission en Afrique du Sud pour le boulot.
Mmh.
Et donc, je suis à Johannesburg et... Mmh. Pendant le boulot, Karel m'appelle et un lundi, elle m'appelle parce que c'était tous les lundis, chaque 2 semaines qu'elle allait faire sa visite.
D'accord.
Donc j'attendais qu'elle m'appelle pour me dire que la visite s'était bien passée. Et je vois qu'elle m'appelle et j'entends Karel qui est... Je ne sais plus si elle pleurait ou pas, je ne sais plus. Mais en tout cas, elle m'annonce que Olivier, ça va se reproduire.
Oh.
Je fais comment ça? Elle me dit ouais, je suis parti faire la visite. Et la dame, elle m'a fait l'échographie. Elle m'a dit, est-ce que vous pouvez aller à l'hôpital là tout de suite parce que le bébé est en train de venir.
Oh,
donc, Ouais, on était à, c'est ça, 4 mois en tout cas, non, 5. Je pense qu'il y avait un mois d'écart parce qu'en fait, ce que le médecin nous a expliqué, c'est que bah, plus tu vas avoir des grossesses, plus ton risque à ce que le bébé descende plus tôt si t'es
Arrive
pas
un
un
peu
cerclage
plus.
et recule. Exactement. Et donc, Karel me dit, voilà, bah, c'est en train de se reproduire. Donc, moi, je me dis, attends, moi, je suis à 6 000, 7 000 km de ma
C'est
femme, elle est
sûr.
toute seule. C'est encore en train d'arriver. Je peux rien faire. Et pareil, je m'effondre. Après, je pense que je suis plus sensible que elle, tu vois,
Non mais tu vois pourquoi
sur certaines choses.
je voulais avoir aussi justement enfin, le ressenti un petit peu d'une personne qui le vit, mais un homme cette fois-ci, parce que justement on va se dire que c'est la personne qui le vit qui va peut-être tu vois, ressortir un peu plus facilement ses émotions, mais
Ouais.
finalement je pense que des fois
Ah non,
ça peut être plus simple.
bah elle, tu vois, peut-être parce qu'on avait déjà vécu cette première expérience,
Ouais.
donc forcément elle avait une
Puis
protection,
aussi elle le ressent.
elle avait une protection, elle le
Clairement.
ressent, tu vois. Et elle, ce qu'elle m'a expliqué, parce qu'effectivement j'étais pas là donc pour vivre tout ça, parce que moi le temps que j'arrive, bah, malheureusement on avait perdu notre petit garçon et tout, mais elle quand elle m'a expliqué, c'est que quand elle a été sur le lit et qu'elle sentait que bah, son corps était en train d'expulser le bébé, elle est en train d'insulter tout le monde. Elle dit, je vous avais dit. Je vous avais dit, vous n'avez pas voulu, c'est votre faute, tout ça, nanana. Elle m'a dit, elle avait les yeux fermés et qu'elle insultait tout le monde. Et moi, ce qui me faisait le plus mal, c'était ça. C'était de savoir que ma femme, elle était seule, en fait.
Ouais,
Parce
c'est parfois
que
ça.
ses parents pouvaient, sa mère pouvait pas rester le soir, ses frères et sœurs pouvaient pas rester parce que chacun avait ses cours, son boulot
Ouais,
et tout.
bien sûr.
Et moi, c'est ça qui me faisait mal, c'est de me dire qu'elle est en train de traverser ça toute seule. Et en fait, quand Karel m'a appelé pour me dire que c'était terminé, ce qui m'a fait encore le plus mal, c'est qu'elle m'a dit ça calmement. Tu sais, c'est pas, elle était pas en pleurs, elle était pas triste.
En fait, c'est comme si elle avait déjà
C'est
réalisé
ça.
avant ça se passe que ça allait se
C'est ça.
passer, et puis
C'est
bah
ça.
en fait c'était normal que
C'est
ça se
ça.
passe, quoi.
Et moi, c'est ça qui m'a fait le plus mal et le plus, entre guillemets, peur, c'était de me dire que elle est trop froide par rapport à ce qui vient de se passer, comment elle se sent. Tu vois, j'avais ça. Mais Dieu merci, avec mon travail, bah, j'ai pu venir tout de suite. Donc en gros, j'ai quitté Johannesburg en urgence. Je suis arrivé à Dakar. J'ai juste fait la nuit et j'ai pris l'avion le
D'accord, pour la
lendemain pour venir
France.
sur la France. Et j'ai fait un mois où je suis resté avec elle.
D'accord.
Et on a fait un mois pour que justement elle puisse faire toutes les batteries
Les
d'examen
examens, ouais.
ici, pour pas que justement, bah, prochaine grossesse, qu'on soit à Dakar ou ici, qu'on nous dise non,
Ouais, que
encore essayer.
là, pour une fois, on prenne réellement au sérieux ce qui se passait, quoi.
Exactement. Donc, fait tous ces tests, on rentre et on décide que, écoute, tu viens de vivre un an où tu as perdu deux grossesses, on va se calmer. On va laisser que tu reprennes ton corps, on va laisser que les émotions redescendent et on va prendre le temps. Donc, elle a commencé à reprendre des contraceptions. Et entre-temps, bah, il y a eu des épisodes, comme tu vois, des gens qui disent, alors c'est pour quand le bébé, des choses comme ça. Un épisode que je suis content de ne pas avoir vécu. Une fois, elle était dans un centre commercial, un magasin.
D'accord.
Et le caissier qu'on voyait quasiment tous les jours, parce que c'était un supermarché, qui nous voyait toujours pour faire nos courses. Donc, à force de nous voir tous les jours, il
Oui,
pense
il
qu'il nous
commence
connaît.
à
Tu vois, il est un peu familier.
un peu de familiarité,
Et
voilà.
il voit Karel et tout. Il lui dit, ah, mais il va falloir reprendre le sport là, t'as grossi un peu. Et
Oh,
Karel me dit
ça.
qu'elle a juste pété un plomb. Elle a gueulé, elle a insulté. Elle lui a dit, tu sais que je viens de perdre un enfant, les trucs comme ça, nana.
Waouh.
Et elle rentre et elle me dit ça. Je fais, putain, je vais le tuer, le gars, bref. Et donc voilà, on se dit qu'on va prendre notre temps. Donc on se concentre un peu plus, bah, sur nous, le blog, sur ce qu'on fait. Parce que c'est à ce moment-là, quand Karel revient donc de France, on se dit, écoute, t'as vécu tout ça. Plutôt que tu reprennes travailler, fais ce que tu aimes, fais ce qui te plaît, ce qui te passionne, mets-toi à 100% dedans. Moi, j'ai mon salaire qui peut s'occuper de nous pour l'instant et donne-toi à fond. Pendant 2 ans, on se consacre au blog, 1 an et demi, 2 ans, tu vois, sans se dire qu'on va repartir tout de suite dans l'aventure bébé. Et donc, quand finalement on se décide, bon, bah là c'est bon, vas-y, viens, on retente. Donc, quand on retente, tu vois, les deux premières grossesses, dès qu'on a décidé d'avoir un bébé, ça arrivait très vite. La troisième, quand on décide que ça va arriver, ben, un mois passe, deux mois passent, trois mois passent, cinq mois passent, ça n'arrive pas. Et forcément, Karel, elle a du stress qui monte en elle, mais elle ne me le dit pas. C'est que maintenant, depuis quelques temps, qu'elle me l'a avoué et que je l'ai compris. Tu vois, qu'à chaque fois qu'elle faisait des tests de grossesse, elle passait des mauvaises journées parce qu'elle le voyait négatif et qu'elle ne me le disait pas. Mmh. Et finalement, elle se met la pression, on en discute, on se dit, mais tu te mets trop de pression, c'est ça qui te bloque, tout. Et on vient donc en France, donc c'était il y a 2 ans. Mmh. On vient donc en France pour des vacances. Et elle me dit que justement, avant qu'on arrive, c'est là qu'elle dit, écoute, bah, tu sais quoi, je vais plus me poser trop de questions. Et je vais le vivre tranquillement. Et donc à 2 jours de notre retour à Dakar, Karel s'est dit, bah tiens, j'ai pas eu mes règles, j'ai juste faire un test comme ça, tout, mais en se disant que...
Elle y pensait plus en
non,
fait.
Non, elle y pensait plus trop. Et elle fait son test de grossesse. Et en fait, Karel, à chaque fois qu'elle fait des tests de grossesse, elle attend que je dorme. Et j'attends que je dorme, et à chaque fois, t'as Karel qui rentre dans la chambre et qui saute sur moi, qui me dit « Olivier, regarde, regarde !» Et donc, le matin, elle se lève, je me réveille, elle me saute dessus, elle me dit « Olivier, regarde, j'ai fait un test de grossesse, je suis enceinte. » Donc forcément, on est super contents, tout. On se dit « Bon, on s'emballe pas trop. » Je crois que c'était un dimanche. Le lundi, on va faire un test sanguin pour être sûr qu'elle est enceinte. Donc le test le lundi nous confirme qu'elle est bien enceinte. Et donc le mardi, on devait rentrer à Dakar. Et donc le mardi, tout va bien, on est content, on est heureux. On sait déjà que non, on ne va pas rentrer en France pour cette grossesse, on va la faire à Dakar avec notre gynéco, parce qu'on a vraiment une relation avec notre gynéco. J'ai même dit notre, hein, c'est mon gynéco.
Oui, t'inquiète pas, j'ai bien entendu.
Et on part content, tu vois, on est content de rentrer à la maison.
Ouais.
Et on part avec la sœur de Karel qui venait en vacances chez nous. Et donc on va pour prendre l'avion, tout, on fait tous les trucs, tout ça, nanana, on est dans la salle d'embarquement, tranquille, tout. Et en fait, Karel commence à dire qu'elle a mal au ventre, mais on ne se pose pas plus de questions. Et à un moment, la sœur de Karel est en train de jouer, il y avait des PlayStation à l'aéroport, elle est en train de jouer, moi je suis assis avec Karel. Et Karel me dit, Olivier, je saigne. Je dis quoi? Elle me dit, Olivier, je saigne, je vais aux toilettes. Et elle se lève. Et sur le siège, je vois qu'effectivement, il y avait du sang. Elle va aux toilettes. Et là, c'est douche froide. Tu te dis, qu'est-ce qui est en train de se passer encore? Pas encore, pas là maintenant.
Et en plus, là, c'était encore beaucoup plus tôt que...
Ah oui, non, là, c'était encore beaucoup plus tôt. Mais là, tu vois, ce que le médecin nous a expliqué après, il nous a dit, Olivier Karel, tout ce qui arrive dans le premier trimestre, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez.
C'est ce que j'allais te dire que là, c'était une fausse...
C'est ça,
un peu
c'est
lambda,
ça.
Comme on
c'est que... Votre embryon avait peut-être un défaut, avait peut-être quelque chose et le corps l'a rejeté.
Ouais.
Ça, on n'aurait pu rien faire pour ça. Et donc, Karel va dans les toilettes de l'aéroport. Je ne la vois pas revenir. Je demande à sa sœur, s'il te plaît, parce que moi, j'avais les affaires.
Ah oui.
Donc, je dis à sa sœur, va voir. Et je vois que le vol est en train d'embarquer.
Ouais.
Et je vois qu'Elodie, donc la sœur de Karel, ne revient pas. À un moment, je la vois au loin qui commence à venir vers moi et je vois son visage qu'elle est en pleurs de fou. Je dis ok, je prends les affaires, j'y vais et je vois Karel est dans la salle de bain et Karel est en train de... Elle crie, elle pleure, elle me dit Olivier, j'ai perdu le bébé, je l'ai vu. Il est là, je l'ai vu. Donc on appelle les pompiers de l'aéroport et qui nous amènent donc à l'hôpital de l'aéroport. Ils ont une petite section dans l'aéroport. Mais tout était déjà fini en fait. Il
n'y
avait plus rien, tu vois. Et pour te dire encore une fois la force de Karel, c'est que quand elle était avec les pompiers, qui ont marché donc au milieu de tout l'aéroport pour nous amener dans l'hôpital de l'aéroport, elle rigolait. Elle rigolait avec eux. Elle m'a même dit, bah, tu sais, Olivier, Elodie, allez prendre l'avion. Moi, je prends l'avion demain, je vous rejoins demain à Dakar. Je dis, mais t'es folle ou quoi? Comment ça, tu me dis que moi, je vais te laisser là, tout? Mais elle a tout de suite été détachée de ce qui se passe.
Franchement, c'est faut avoir un certain, une certaine force hein, quelque part. Moi, je sais pas.
Force ou folie, je sais pas, un des deux. Heureusement qu'elle ne m'entend pas. tu vois. Et c'est en ça. Moi aussi, tu vois ça. Je dis que souvent que Karel, elle est forte, mais en même temps, je sais pas si c'est ça, si c'est de la folie ou dans sa tête, parce que c'est après plusieurs mois après quand je lui dis ça qu'elle a réalisé ce qu'elle me disait, tu vois. Et elle me dit ouais, non, en fait, j'avoue. Mais je disais mais comment tu peux m'avoir dit ça? Mais bon, bref. Et donc, les gens d'Air France Désolé, c'est pas de la pub, hein, mais ils ont été,
non, ils ont été...
ils ont été vraiment très cool parce que tu vois, je leur ai expliqué la situation. Ouais. Ils m'ont dit non, non, vous inquiétez pas, allez vous occuper de votre femme, on vous mettra sur le vol de demain ou de plus tard. Venez, venez nous voir à truc. Et donc, ben, finalement, à l'hôpital de l'aéroport, ils nous envoient donc à l'hôpital le plus près,
ouais.
Parce que donc faire des tests à Karel, savoir comment elle va et tout.
Si elle avait tout.
C'est ça, et exactement. Et donc finalement. Ils nous donnent un papier parce qu'on avait besoin d'un papier parce que pour pouvoir voyager le lendemain. Parce que nous, on s'est dit non, on reste pas, on rentre.
Ouais.
On avait besoin d'un papier de l'hôpital qui confirmait que Karel n'avait plus de sang qui coulait ou autre. Donc, on récupère le papier. On retourne à l'aéroport. Les gens d'Air France nous ont donné des billets pour le lendemain. Et le lendemain, on est rentré à Dakar. On est rentré à Dakar. Donc on a vu le gynéco, on l'a expliqué, il nous a expliqué les raisons de cette perte. Mais tu vois, celui-là, on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé.
Parce que c'est vrai que tu disais tout à l'heure que, et c'est vrai, hein, quand ça arrive dans le premier trimestre, généralement,
c'est ça.
C'est, voilà, on est un peu plus habitué à ça.
C'est ça, c'est ça.
Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais voilà, c'est vrai que ça arrive
très, très fréquent, souvent. Très souvent.
Moi-même, j'en ai eu une.
Ouais.
Et du coup, mais c'est vrai que quand on en a déjà perdu deux,
ouais.
Ça doit être plus difficile quand même à... Alors, quand c'est la première fois
que
ça t'arrive.
Je dirais que cette fois-là a été la moins, entre guillemets, difficile. Parce qu'on a su que deux jours avant.
Ouais.
Tu vois, on n'a pas eu le temps de se projeter, on n'a pas eu le temps d'imaginer, on n'a pas eu le temps même d'angoisser par rapport au fait que on va rentrer dans une grossesse, est-ce qu'on va avoir les mêmes problèmes que ce qu'on a eu. Ça a été tellement vite, entre le moment où on l'a su et le moment où tu te dis, bah, c'est plus là, qu'on n'a même pas eu le temps de le,
de le
digérer, rien,
ouais,
rien.
Ouais.
Et justement, quand, donc là c'était il y a deux ans, parce que donc, ça faisait deux ans qu'on n'était pas venu en France, là, depuis là. C'était là, il y a Karel me disait l'autre jour qu'elle avait elle a reçu un souvenir sur Instagram. Et comme elle poste tous les jours, il n'y avait rien ce jour-là. Elle s'est dit, mais pourquoi il n'y a rien ce jour-là de souvenir? Et à un moment, elle s'est dit, elle fait, ah mais oui, c'était le jour où on était en train de partir. Tu vois, elle avait oublié le truc. Et tu vois, dans tout ce parcours-là, j'ai encore rien dit sur ça, hein, mais pour moi, tout ça, c'est Dieu. Tu sais pourquoi pour moi tout ça c'est Dieu? Parce qu'on a perdu notre troisième grossesse le 30 juillet. Kélina, elle est née
le 30
juillet.
Ouais.
Tu vois. Wow. Elle est née
un an
après.
Un an après.
Ouais.
Incroyable.
C'est ça, tu vois, c'est le destin. Hein. Je pense que.
Complètement.
Tu vois, je pense que même au niveau de nous, que ce soit notre couple, que ce soit d'un point de vue professionnel.
Ouais.
Il fallait pas qu'on ait ces enfants-là avant. On n'était peut-être pas prêts professionnellement. Mmh. On n'était peut-être pas assez matures pour élever un enfant, d'un point de vue que ce soit financier ou un truc comme ça.
C'est un regard assez... je ne sais pas comment le dire, parce que de le voir comme ça, après, peut-être, c'est aussi le temps qui a passé.
Ouais,
qui
bien
fait
sûr,
réaliser les
bien
choses.
Sûr.
Hein. Mais ouais, moi, je suis impressionnée de ce recul-là que tu as, en fait, à ce moment-là.
Nous, c'est ce qu'on se dit, et c'est que... Peut-être que c'était ces épreuves, on devait les vivre pour nous être encore plus solides, nous deux, pour aussi plus apprécier notre fille qui est là aujourd'hui, tu vois. En tant que croyant, je peux pas remettre en question ce qui s'est passé, tu vois. Et je me dis que rien n'arrive pour rien, et on a tellement de choses dans nos vies, à Karel et moi, qui nous sont arrivées, où tu te dis que rien n'arrive pour rien, que ces choses-là devaient arriver. Mais non, ce que je retiens de ça, en tout cas pour moi, à titre personnel, c'est que être parent, c'est pas facile. Et quand on dit que c'est pas facile, c'est depuis la conception jusqu'à ce que ton enfant... tu vois, c'est pas facile. Et que ce qu'on t'apprend à l'école, on t'apprend pas la vérité.
Ouais.
Moi, c'est ça que je retiens. Mais que c'est quand même une belle aventure, malgré ses stress et ses angoisses, c'est quand même une belle aventure. Donc on rentre à Dakar, donc on sait qu'on va avoir un enfant, donc on dit non, pas de contraception, on va continuer. Et donc en novembre 2019, on voit Karel enceinte, on est à Dakar, donc t'es pas excité à 100% parce que tu sais que tu repars encore dans une aventure, tu te dis j'espère que ça va pas se passer encore une quatrième fois mal. En même temps, tu es content, mais tu sais pas comment le faire. Et tu sais, les autres grossesses, à chaque fois, dès qu'on le savait le jour J, on le disait à nos parents, nos sœurs, tout ça. Là, on l'a su, on l'a dit juste à nos deux mères. On l'a même pas dit à nos pères, on l'a dit à personne.
Là,
Là, on l'a dit à nos deux mères. On l'a dit au gynéco, parce qu'on devait partir à Cotonou pour les fêtes de décembre. Donc, l'inquiétude, c'était est-ce qu'on peut partir, est-ce qu'elle peut prendre l'avion, tout ça, nana. Gynéco nous dit, tant que c'est le premier trimestre, on peut rien faire. Donc, partez en vacances, tout, et faites vos vacances là. On a fait un mois à Cotonou, fête de fin d'année, où il y a du champagne, il y a des produits crus, foie gras, saumon, tout ça. Donc, dis-toi qu'il fallait... Il fallait cacher à tout le monde que Karel était enceinte pendant les fêtes.
Wow. Donc, challenge.
Non, on a été fort. Personne n'a rien vu. Incroyable. Rien vu. C'est-à-dire qu'on est sorti dans aucune soirée. On n'est pas allé sortir en boîte. Alors que d'habitude, avec Karel, on sortait dans les soirées de Saint-Lana. Karel passait son temps à dormir. Je me suis dit, mais quelqu'un va se poser une question. À un moment, que Karel, elle est tout le temps en train de dormir. La journée, le soir, elle dort tout le temps. Je me suis dit, personne n'a rien vu. Mais comme on avait enchaîné beaucoup de boulot, les gens disaient « Ah non, elle est fatiguée parce qu'elle a beaucoup bossé ou des trucs comme ça. » L'alcool, elle disait « Ouais, non, je prends des médicaments, en ce moment, je ne peux pas prendre. » Quand on était en train de manger, qu'il y avait du saumon, du foie gras, dès que tout le monde regardait un petit peu à gauche, à droite, Karel me passait comme ça l'assiette sous la table.
Comme dans les films.
Mais vraiment, tout à fait, vraiment. Et on a réussi à faire les un mois sans que personne ne voit rien. Wow. Et donc, on rentre à Dakar. Karel était donc à deux mois de grossesse. Et donc, mi-février... on lui fait le cerclage.
Okay. Donc là, cette fois-ci, on lui a fait. Et je note aussi qu'à chaque fois, vous le savez quand même assez tôt, hein, au niveau des grossesses.
Ouais, on le sait tôt. Et mi-février, on lui fait cerclage. Donc déjà, nous, nos mères veulent qu'on revienne en France.
Ouais.
Nous, on a dit non. On a dit, nous, notre grossesse, on l'a fait à Dakar. On l'a fait avec notre gynéco. À un moment même, on commence à nous dire, oui, mais changer de gynéco, ce gynéco, il n'est pas bien tout. On a dit, nous, on est... c'est notre gynéco, on est en confiance avec lui, on reste avec lui. Et donc on lui fait donc le cerclage, et en même temps on lui met un PCR.
C'est
tu
peux expliquer un petit peu.
Ouais, alors un PCR, c'est bon, je saurais pas le te montrer ça
oui,
t'expliquer exactement, mais pour l'imager, c'est comme un bouchon, tu vois, pour boucher l'évier.
D'accord. Okay.
Tu vois, c'est un truc en plastique. Qu'on te met et qui va fermer, tu vois, le col encore.
Le col.
Donc, ce qui fait que Karel avait deux protections.
Okay.
Et donc, on lui fait l'opération. Et c'est vraiment une opération. On s'est dit, on va rentrer au bloc, ça va durer une heure et demie, 10 minutes.
Ah ouais.
C'est-à-dire qu'elle est rentrée, je lui ai dit, le gynéco m'a fait rentrer pour lui faire un bisou avant qu'elle s'endorme. Mm. Il l'a endormi 10 minutes, il est sorti, il m'a dit, ça y est, c'est fini. J'ai dit, ah, d'accord. On a fait l'après-midi à la clinique et on est rentré à la maison.
Okay.
Et donc, la consigne, c'était Karel, repose-toi, essaie le plus possible de rester allongé et tout. Parce que même si ton col est fermé, c'est pas une garantie.
Ouais.
Tu vois ? Donc, c'était ça le truc. Et on est tombé en plein Covid. Donc,
incroyable. Donc, c'était bien pour vous.
Nous, on est les seules personnes qui avons été heureux de cette période parce qu'on n'avait pas à se justifier qu'on ne venait plus dans les événements.
Ouais.
On n'avait plus d'invitation à voyager pour des événements.
Ouais.
On était chez nous, enfermés, et personne ne nous posait de questions.
Personne ne venait nous rendre visite,
personne ne nous posait de questions. On a juste arrêté justement la chaîne YouTube parce que le visage de Karel commençait à changer. Et il se trouve que moi, j'ai porté la grossesse.
Tu commençais à prendre aussi un petit
non,
peu de poids.
Non, j'ai été bloqué, mon
c'est
dos, je te jure.
Wow.
De mars à mi-juillet, je ne pouvais pas rester debout, je ne pouvais pas rester assis. Je marchais comme ça.
Donc vous l'avez vraiment vécu ensemble cette fois-ci.
Et non, mais vraiment, et c'était Karel qui était mobile et c'est moi qui ne pouvais pas bouger.
Wow.
Je ne pouvais rien faire, c'était horrible. Et plus le temps avançait, plus on se rapprochait de la date, plus je me disais, mais si je reste comme ça, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai eu des soirs où j'étais en larmes. Devant Karel, en train de lui dire, je suis inutile, je fais rien, qu'est-ce qui va se passer ? Je ne pouvais même pas faire à manger à Karel, je ne pouvais pas aller faire les courses, je ne pouvais rien faire. Mais Dieu merci, Karel a vécu, elle, une grossesse au calme, pas de complications. On s'est fait des soirées Marvel, on a fait regarder tous les Marvel, tous les Harry Potter, on était enfermés dans notre cocon chez nous. Un grand merci à nos voisins du dessus qui ont été finalement, c'est eux qui nous ravitaillaient, c'est eux qui faisaient tout pour nous dehors, Doro et Anna.
C'est une chance.
Ah ouais, non, c'était une chance. Et donc, on était vraiment dans notre cocon. Et à 3 semaines de l'accouchement, moi, j'ai mon dos qui, comme par magie, se débloque.
Incroyable.
Incroyable. Non, mais vraiment incroyable. Et donc, ouais, c'est ça, 3 semaines de l'accouchement. Donc, Karel était dans son 8e mois. On lui enlève le cerclage. Donc, parce que nous, on avait deux caps déjà pour nous. Premier cap, c'était dépasser. Donc, c'était, si je ne dis pas de bêtises, mon avocat me corrigera, c'était 25 semaines. Non, mon avocat me corrige. C'était la Mia? Non mais ça, bon en fait, Karel est à côté avec Kélina, si vous n'avez pas compris, en fait elle est à côté, mais quand je vous disais tout à l'heure que, Dieu merci elle n'est pas là, mais elle écoute tout. Donc ouais, il fallait qu'on dépasse le cap de 19 semaines,
ouais.
Qui était donc notre deuxième grossesse qu'on avait perdue à cause de la béance de col, et après qu'on dépasse le cap de 25 semaines, qui était donc la première grossesse qu'on avait perdue.
Okay.
Pour nous, c'était déjà nos deux caps à nous qu'il fallait qu'on dépasse.
On a même une troisième invitée surprise.
Kélina qui est là. Donc on a passé le premier cap, premier, tu respires.
Okay.
On passe le deuxième cap, tu respires encore un peu plus.
Ouais, parce que moi j'allais te demander justement, mais bon, comme Karel est là, peut-être qu'elle va aussi nous répondre, j'allais te demander justement, vu que les précédentes avaient été perdues quand même assez tôt,
ouais.
Là, bon, c'est vrai qu'il y avait le confinement, vous étiez entre vous et tout, et puis je me demandais en fait, comment à ce moment-là elle le vivait, parce que finalement ça continuait d'évoluer,
ouais.
Par rapport à la première fois.
Je pense que les, comme tu dis, jusqu'à ce qu'on dépasse les caps.
Ouais.
Oui bébé. Oui bébé. On parle de toi là. Et tant qu'on dépassait pas ces caps-là, on se projetait pas.
Okay. Ouais, voilà,
tu vois,
c'est ça.
On n'achetait rien pour préparer la chambre, on faisait rien de tout ça. Pour nous, il fallait d'abord, avant de se projeter, il fallait qu'on dépasse ça.
Ouais.
Tu vois. Et quand on a dépassé ces deux caps, là, on a commencé à dire, OK, c'est bon, on a déjà dépassé les deux caps, on respire un peu plus. Et le gynéco nous avait dit, OK, si on dépasse, si je ne me trompe pas, qu'à rester 30 semaines.
En fait, à partir de 26 semaines,
ouais.
C'est grand prématuré,
ouais.
Mais l'enfant peut être viable.
Ouais.
Donc après, il faut avoir un très bon suivi médical. Mais l'enfant est viable. Donc nous, on s'était dit effectivement,
papa,
à 29, 30 semaines, ça reste prématuré, mais c'est bon.
Voilà. Au moins, c'est un bébé qui va pouvoir survivre en couveuse, mais
ça,
voilà,
c'est
qui au moins va pouvoir survivre. Quoi.
Exactement. Et une fois donc on a passé donc le deuxième cap,
non.
C'était le gynéco, il nous a dit clairement, OK Karel, il faut que tu serres les fesses là maintenant,
ouais.
Et on va aller jusqu'au bout. Et donc à un mois et demi du terme, on lui a enlevé le cerclage. Parce que là, le bébé était viable, tous les signes étaient au vert, elle était à 36 semaines. Là, il fallait l'enlever et que Karel puisse accoucher naturellement. Et nous, ce qu'on s'était dit, c'était que, bon, dès qu'on va lui enlever le cerclage, ça se trouve, dans l'heure qui suit, allez, au pire, le lendemain, elle va accoucher. Vu qu'elle a une béance de col, ça va s'ouvrir tout de suite. Et finalement, et le pire, c'est que, comme on ne voulait pas se projeter, on n'avait rien acheté pour la chambre de la petite. Rien.
Jusqu'à un mois avant la naissance
Non, je pense 2 mois avant. Et c'est à bout de 2 mois que Karel a commencé à acheter les trucs pour que justement on puisse les recevoir,
ouais.
Avant que la petite arrive.
Wow.
J'ai acheté un mois et en fait, j'avais pas pensé au transport. Et en fait, on s'est retrouvé avec la chambre de la petite à une semaine,
ouais.
Avant l'accouchement.
On a demandé au gynéco, est-ce que c'est possible d'attendre une semaine en plus pour enlever sa cloche parce qu'on n'a pas encore la chambre de la petite. C'est même nous, on a demandé d'attendre. Il a dit, ouais, non, il n'y a pas de problème, on peut attendre la semaine prochaine.
Ouais.
Donc la semaine d'après, on est venu. Il dit, bon, là, par contre, il va falloir qu'on l'enlève.
Ouais.
On dit, mais on n'a pas encore la chambre. Il dit, ah, mais il va falloir qu'on enlève. Et finalement, on a enlevé. Et Karel, si je ne dis pas de bêtises, elle a accouché 2 semaines ou 2 semaines et demie après qu'on l'a enlevé. On a eu le temps d'avoir la chambre, d'installer la chambre. Et la chambre
en fait,
était
c'est
prête.
C'est Kélina qui vous avait écouté. Elle avait dit, bon, je vais attendre
un
petit peu. La
ou je pense que c'est Karel qui a dit, non, attends, la chambre, elle n'est pas prête.
on serre.
Et donc, finalement, la chambre a été prête. Et le week-end, Kélina est née un jeudi. Le dimanche, Karel a commencé à sentir des signes de contraction. Donc le lundi, on est parti voir le gynéco. Okay. Il a fait un monitoring et finalement, ce n'était pas des contractions de travail encore. Ah. Donc il a dit non, vous pouvez rentrer à la maison. Mais le lundi soir, elle a continué à avoir des contractions. Le mardi, elle avait encore des contractions. Et comme notre gynéco Ibrahim, on parle avec lui par WhatsApp et des trucs comme ça, elle lui a dit bon, revenez mercredi, on va encore faire un monitoring. Le mercredi, on a fait un monitoring. Ce n'était pas encore des contractions de travail. Ouais. Sauf qu'on rentrait dans le week-end de la Tabaski.
D'accord.
Donc, et donc, plein de jours fériés, plein de gens qui sont absents.
Ouais.
Et donc, le mercredi, quand on fait le monitoring, le gynéco dit, écoutez, c'est comme vous voulez. Soit vous rentrez à la maison, vous attendez que Karel perde les os, tout, et vous venez à la clinique. Sauf que, comme on n'habite pas trop près de la clinique, le temps qu'on arrive, soit vous pouvez, Karel peut accoucher, soit vous allez arriver, on n'aura pas le temps de poser la péridurale. Ça peut être très stressant comme expérience. Ou soit vous prenez vos affaires demain matin, vous venez demain matin et on déclenche l'accouchement. On a dit mais attends, pourquoi tu nous proposes ça que maintenant? Mais bien sûr que demain matin on vient, c'est
il
fini.
Il fallait proposer ça en premier.
Tout de suite. Et donc on, bah entre temps, je saute plein de trucs parce que entre temps avec Karel elle m'a fait regarder toutes les trucs, l'école des maternelles, les trucs comme
ouais,
ça.
Pour se préparer.
C'est là qu'elle a commencé à avoir des stress parce que. On a découvert plein de choses qu'on ne savait pas, tu sais, l'épisiotomie.
Ouais.
Donc ça commence à la stresser dès qu'elle a vu le truc sur ça. Comment ça s'appelait le bouchon que tu perds, les femmes enceintes, le bouchon muqueux. Alors Karel, elle avait commencé à perdre du bouchon muqueux, mais on ne savait pas ce que c'était. Donc elle a commencé à en perdre, on s'est dit, là l'accouchement va arriver. Finalement, on a découvert que ce qu'elle avait perdu, c'était que ça. Parce que le jour où elle a vraiment perdu le bouchon muqueux, on a dit, ah ouais, non, ça c'était ça. Le jeudi matin, on est parti avec nos valises à 8h à la clinique. Et donc, ils l'ont tout de suite mis dans la chambre et ils ont déclenché l'accouchement. Et à 10h30, elle avait accouché. En 2h, 2h30, elle a accouché. Et ça a été un accouchement finalement hyper agréable parce que ça s'est passé vite.
Ouais.
Elle n'a pas trop souffert. Et on a vite vu notre fille, en fait. Ça, elle était là, quoi. Donc, pour nous, c'était cool.
Et ça, justement, de réaliser, bon, après tout ce par quoi, justement, ouais. Vous étiez passé, de réaliser que ça y est, c'est réel, elle est là.
Ouais. Ah non, c'était... C'est-à-dire que quand Karel l'a eu tout de suite sur elle, elle a évacué,
ah ouais,
elle a évacué 3-4 ans de tout ce qu'elle a vécu. C'est pleurer, c'est... Tu réalises que ça y est, c'est là, quoi.
Wow.
Tu vois, moi je veux dire que moi mon moment où j'ai évacué, c'est quand j'ai pris mon téléphone et que j'ai appelé ma mère et je lui ai dit ça y est.
Wow.
C'est là où je l'ai senti. C'est quand je l'ai dit,
ouais.
Que Karel a accouché, quand je l'ai dit dans ma bouche et que je l'ai entendu, je me suis entendu le dire. C'est là où les émotions elles sont sorties. Et donc voilà, 30 juillet, Karel a accouché. Et c'est là donc que nous on a posté qu'elle est enceinte. Parce qu'on avait fait le photoshoot, je crois, trois semaines avant ou un mois avant. Et on a dit non, on attend. Et quand elle a accouché, on a dit ok. Là, on peut pas dire que tu as accouché. Tu vois, on peut pas dire aux gens tout de suite, venez, attendez
ouais.
Les gars,
vous sautez
des étapes quand même. Prévenez-nous qu'on ait le temps d'acheter des bouboules et tout, tu vois. Donc, on a posté la photo. Mais tu sais, on a posté la photo. Pour nous, c'était ok, on va annoncer que tu es enceinte. Mais en même temps, c'était plus aussi pour prévenir que bon, vous n'allez pas avoir de recettes, parce que d'habitude, c'était des recettes
oui,
tous les lundis sur le blog, pour pas que les gens se posent des questions, mais pourquoi il n'y a pas de recettes ces temps-ci. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on l'a posté. Et tu vois, on savait qu'on allait avoir des retours et que les gens allaient être contents et tout, mais on ne s'attendait vraiment pas à autant de retours. Et c'était ouf. Et on s'est dit, on va attendre de faire le baptême de la petite,
ouais.
Une semaine après,
ouais.
Pour dire que la petite est née, tu vois. Pas mettre les yeux, les bouches, et qu'on ait le temps de nous digérer ce qui vient de se passer avant de dire qu'elle est née. Et donc, ouais, on a fait 3 jours à la clinique. On est rentré à la maison. Et c'est marrant parce que la veille de l'accouchement, donc, quand on était donc dans le lit avec elle, on se regardait et j'ai dit, mais... Tu te rends compte que là, ça veut dire que pendant 18 ans, 19 ans, là, ça y est, c'est fini, là. On est plus tout... là, on est plus tout seul, là. Tu veux dire que demain, c'est fini, là.
Ouais.
C'est ça. Et c'est marrant parce que tu sais que c'est demain. Tu vois, c'est pas comme un accouchement naturel et c'est soudain, tu dis ah là là.
Oui.
Tu sais, là, on a eu le temps d'en discuter, de se dire que demain, c'est parti.
C'est ça.
Et donc, on est rentré à la maison. Et comme nos parents sont pas là, contexte Covid en plus encore, tout ça, on était que tous les deux, quoi. Mm. On était tous les deux, on s'est retrouvés tous les deux avec la petite. Et on n'a jamais vu qu'ils s'en dit ok, c'est parti, quoi. C'est parti, et bon, bah là, un an après, elle est là, elle court, elle rigole, ouais, elle a l'air de bien aller, quoi.
Elle va très bien.
Hein, Kélina, ça va?
Oh là là, en plus, elle fait un petit sourire, là.
Kélina, ça va? Voilà, elle est là.
Je pense qu'on arrive déjà à la fin de notre conversation. Hein. Mais avant, j'avais quand même une dernière petite question pour toi. C'était au vu de ce par quoi vous êtes passé, est-ce que tu avais, quelles étaient les leçons que tu retenais de tout ça? Je vous ai déjà dit un petit peu, hein, mais voilà, quelles étaient les leçons que tu retenais de tout ça? Et puis, si tu avais un message à faire passer, notamment à toutes ces personnes-là qui posent toujours cette question, la fameuse question, quand on est bébé.
Non, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que la vie, c'est ça, hein, c'est des expériences et tu contrôles pas tout. Et que comme tu contrôles pas tout, il faut garder la foi, il faut garder tes rêves et tout.
Ouais.
Après, c'est facile à dire, hein, parce que nous, notre problème, c'était pas un problème de conception. J'imagine que pour des gens qui ont des problèmes de conception, ça doit être plus difficile d'entendre ces mots-là.
Ouais.
Ce que je retiens aussi, c'est que notre parcours à nous est loin d'être le plus dur, quoi, malgré tout ce qu'on a vécu. Et qu'il faut rester, relatif, parce qu'il y a des gens qui vivent tellement pire que nous en termes de vouloir être parent et de grossesse. Notre parcours est loin d'être le plus difficile. Et ce que je pourrais dire aux gens qui posent trop de questions, occupez-vous de vos... Non mais vraiment, quoi.
Ça, c'est important de dire. Parce
occupez-vous de vos affaires. Arrêtez de demander aux gens c'est quand ci, c'est quand ça, c'est quand ça. Est-ce que toi, on te demande c'est quand que tu te laves les dents? Est-ce que
non,
c'est.
Mais,
occupez-vous de vos affaires. En fait, tu sais pas. Tu vois la personne, elle est souriante. Tu vois la personne ici, mais tu sais pas ce qu'elle traverse. Tu sais pas ce qu'elle traverse dans sa tête, dans son cœur, dans sa vie personnelle. Tu sais pas si la personne, elle veut pas avoir d'enfant, si elle veut pas avoir de mari, si elle veut pas. Bref. C'est ça. Arrêtez d'être, de poser des questions aux gens, et c'est incroyable. Et bref, je comprends pas.
Mais écoute, merci beaucoup.
Merci à toi, Thierry.
Merci d'avoir accordé ton temps.
Avec grand plaisir. C'était une belle discussion.
Ouais, clairement. Vraiment, ouais. C'était vraiment un plaisir. Je suis quelqu'un de très sympa.
Merci beaucoup.
C'est important. Donc voilà, merci.
Merci beaucoup.
Du coup, à bientôt.
À bientôt pour la deuxième grossesse.
Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas aussi à me laisser vos commentaires, c'est toujours un plaisir de lire vos retours. À bientôt !